France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Emmanuel Macron se rend à Rodez ce soir pour donner le coup d'envoi de la concertation citoyenne sur les retraites. Le président reprend le format des débats qu'il avait organisé pendant la crise des Gilets jaunes. Et cette réforme à venir nous fait réfléchir sur la place des personnes âgées dans la société. Bonjour Julia Moury et Clément Boxbeld.
Bonjour Mathilde.
Deux invités ce matin dans le 5-7. Vous êtes journaliste et vous avez fait un tour du monde de la vieillesse. Ça a donné plein de choses sur Internet notamment, mais aussi un livre qui sort aujourd'hui qui s'appelle Oldysée, publié au Seuil. Vous avez rencontré des centaines de personnes âgées dans 14 pays. Est-ce que cette problématique de la retraite est universelle? Est-ce que dans toutes les sociétés, il y a l'idée qu'à partir d'un certain âge, on arrête de travailler?
Oui, c'est toutes les sociétés sont tournées autour du travail, plus ou moins. En France, plutôt beaucoup. Au Japon, encore plus. Et donc, ce mot retraite, il est souvent vu péjorativement. C'est le mot lui-même le dit. Hein, c'est un peu le retrait de quelle vie, de la vie active. Et donc, derrière ce mot, il y a l'idée que
c'est carrément une retraite de la société, c'est ça.
Voilà,
dans certains pays, puis, quand on ne travaille plus, on se met en marge, c'est ça.
Oui, c'est le cas dans beaucoup de pays, mais moins dans d'autres. Et ça, on pourra rentrer dessus. Mais en France, c'est vrai que c'est un peu le point de passage vers la vieillesse. Et derrière le mot vieux, il y a beaucoup de représentations négatives. Et ça en dit beaucoup sur notre représentation de la vieillesse. D'un côté, il y aurait des jeunes actifs, productifs, dynamiques, innovants. Et de l'autre, des vieux qui feraient pas partie du même monde, qui seraient passifs, qui seraient improductifs. Or aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie, qui est aussi un phénomène inédit, mais dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés vieillissent de plus en plus longtemps et en bonne santé. Mm-hmm. C'est ça qui est nouveau, c'est qu'on a 10, enfin en France, 20, 30 ans devant nous, et on se demande, mais quel sens donner à notre travail?
Alors là, vous avez abordé plein de choses que j'aimerais revoir en détail. D'abord, le mot de retraité, ça c'est notre mot à nous. Dans d'autres pays, dans d'autres langues, on l'appelle comment? Est-ce qu'il y a une autre connotation? Nous, donc il y a une connotation un peu négative, c'est partout pareil?
Nous, on donne l'exemple du mot espagnol qui est rubilación, qui veut dire un petit peu jubilé.
Totalement différent.
Donc complètement différent. Et du coup, je pense qu'on aborde cette période de la vie vraiment différemment. Quand on se dit que ça va être une période de joie où on va profiter, on peut presque avoir hâte, quoi.
Et puis quand on parle de mots qui ont du sens et de mots qu'on emploie, alors vous, dans tout votre livre, vous posez pas de questions, vous embêtez pas, vous dites vieux, vieux, vieux. Vous n'avez pas la pudeur qu'ont certains de dire personnes âgées, troisième âge, senior. Non, ce sont des vieux et il n'y a pas de gêne et pas de méchanceté derrière ce mot, en fait.
C'est ça. Nous, c'est un mot qu'on veut réhabiliter. Parce que c'est derrière jeune, on met beaucoup de représentations positives. Mm-hmm. Alors pourquoi pas le mettre derrière le mot vieux qui, en soi, n'a rien de péjoratif. Et en fait, c'est en interrogeant des personnes âgées qu'on s'est dit, mais comment on peut vous appeler? Et beaucoup, en fait, assument ce mot et disent, je suis vieux, mais dans ma tête, ça veut pas dire que j'ai pas plein de projets, plein de désirs, plein d'inspirations, et que je fais pas partie du même monde que les autres.
Alors, pour en revenir aux retraites, vous parliez justement du Japon. C'est assez intéressant puisque vous dites que là-bas, on continue de travailler très très tard, et c'est pas vraiment des petits boulots. C'est même pas pour une question d'argent. C'est vraiment pour se sentir utile à la société.
C'est vrai que il y a peut-être des Japonais qui continuent de travailler pour des raisons financières,
mais ceux que vous avez rencontrés, pas forcément.
Nous, on s'est retrouvés au tout début du voyage dans un accueil de jour. Donc accueil de jour, en général, on fait un peu de la peinture, de l'art thérapie, on occupe notre temps comme on peut. Et là, les dirigeants de l'accueil de jour proposaient des petits boulots à des Japonais qui avaient la maladie d'Alzheimer et qui étaient à la retraite. Et c'était incroyable parce que donc les Japonais ils y allaient tous les matins, on leur proposait un petit job, ils choisissaient ce qu'ils allaient faire, et donc ils allaient laver des voitures au garage d'à côté, ils allaient distribuer le journal local.
Et ils n'avaient pas l'impression d'être exploités ou
et ils faisaient ça en fait parce que ils se sentaient utiles, quoi. Et ils nous disaient, il y a que ici que je viens, je me sens utile à la communauté, je retrouve des gens qui sont comme moi, et donc c'était vraiment par ce biais-là qui s'épanouissait.
Il y a une autre problématique qu'on retrouve quasiment dans toutes les sociétés et qui est peut-être problématique, c'est les liens entre les générations. Vous dites que ça, c'est un point commun à la plupart des pays, c'est que les jeunes partent travailler en ville et qu'à partir du moment où ils partent travailler en ville, cet exode rural fait que les liens familiaux se distendent et que les villes, elles sont pas pensées pour favoriser les rencontres. Et là, il y a un exemple que je trouve formidable, c'est la maison multigénérationnelle allemande. Et c'est le mot multigénérationnel qui est important. Expliquez-nous pourquoi.
Ce qui est marrant, c'est que la fondatrice de ce lieu, Hildegard Schoss, elle a à l'origine créé ce lieu pour les jeunes mères. Parce qu'elle, elle est arrivée dans une ville industrielle dans les années 70, et puis elle s'est retrouvée toute seule, voilà, avec trois enfants en bas âge et sans relation, voilà, vraiment sans amis en fait, parce qu'elle venait d'un village où elle connaissait tout le monde, elle venait d'une famille de 10 enfants, et donc du jour au lendemain, elle s'est rendue compte que pour rencontrer les gens, pour les croiser, elle était obligée de prendre des rendez-vous, de les noter dans son agenda, et que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Elle n'avait plus vraiment de relations de proximité, de liens spontanés, et donc elle s'est dit, je vais créer un endroit pour les jeunes mamans comme moi, pour qu'on puisse se retrouver, se soutenir, et elle a ouvert un petit local. Et donc petit à petit, les jeunes mamans se sont retrouvées, et puis les vieux du voisinage ont commencé à venir pour filer un coup de main, pour faire à manger, pour garder les enfants. Et le lieu a grossi. Et aujourd'hui,
Il y a de tous les âges.
Et ça accueille 600 personnes tous les jours. Et ce qui est formidable, c'est que ça a été répliqué sur tout le territoire allemand. Donc il y a aujourd'hui 540 maisons multigénérationnelles à travers l'Allemagne.
Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'en France, généralement, quand on parle d'intergénérationnel, c'est une maison de retraite à côté d'une crèche, quoi. C'est les très très vieux ou les tout petits. Mais il n'y a pas les stades intermédiaires.
C'est ça qui nous marque, quoi. Alors que, c'est ça qui nous marque quand on voit des crèches qui ouvrent dans des EHPAD, ou quand on voit un vieux monsieur avec un bébé dans les bras. Mais dans ces lieux-là, tous les âges sont réunis sans même se rendre compte qu'ils sont en train de faire de l'intergénérationnel, quoi. Et donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on oublie complètement les âges et les générations.
Et dans le monde aujourd'hui, vous écrivez qu'on assiste à une vague grise, jolie formule, hein, que devenir centenaire, ça sera bientôt normal, que partout dans le monde, les populations vieillissent, dans certains pays, ça se fait à marche forcée, et que cette transition démographique, c'est l'un des plus gros défis, et que les politiques ne s'en rendent pas compte, en fait.
Oui, c'est pour ça qu'on a choisi de partir sur ce sujet-là. C'est un grand enjeu dont on parle pas assez. Et on en parle très mal, parce qu'on voit ça vraiment comme un problème. Et au même titre que la transition écologique, il y a la transition démographique. Et d'ailleurs, les deux sont liés, parce que si on accorde aux retraités une vraie place, et notamment sur ces grands enjeux écologiques, je pense qu'ensemble, en résolvant ces deux transitions, on peut vraiment faire avancer les choses.
Odyssée, un tour du monde de la vieillesse. C'est un livre pas déprimant du tout. Si vous dites la vieillesse, c'est pas forcément une période triste, et ça se voit vraiment de votre livre. Moi, j'ai adoré. Hein, voilà. Odyssée, Julia Moury, Clément Boxwell, merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter. Il est 6h28.